Chapitre 6. Alors la crise juponnière vint. Cette tranquillité qu'il avait reconquise à si grand peine fit place à un indéfinissable malaise qui s'accentua et aboutit à une sorte de spleen qu'il attribua aux alanguissements du printemps et aux troubles nerveux qui l'accompagnent. L'aversion de son intérieur qu'il avait tant choyé se montra. Irritable et agacé par le moindre bruit, il ne tenait plus en repos, et s'ennuyant à mourir chez lui, il sortait et s'ennuyait davantage au dehors. Il rentrait, il tombait harassé sur un fauteuil. Il restait immobile, sans force pour secouer la torpeur qui l'accablait, attendant pour se lever que les plantes des pieds lui fourmillassent, et qu'engourdi et devenu inerte et comme paralysé, la main servant d'appui à sa tête le picota d'une façon presque douloureuse. Il se raisonna, se fermant volontairement les yeux, s'égarant de parti pris, craignant de mettre en se tâtant le doigt sur la plaie qu'il sentait se rouvrir et le tirer. N'était-il donc pas heureux? Maître de ses actions, bien dorloté, bien nourri, il menait en somme la même existence béate qu'avant son mariage, au moment où il avait eu les moyens de s'offrir une bonne. Il s'avoua, lassé de ses subterfuges, que cette existence n'était plus la même que celle de jadis, qu'il y avait, au plus ou au moins, quelque chose qui la modifiait du tout au tout, sous une apparence égale. Le mariage se dessina enfin, distinctement devant lui. Il s'interposa entre sa vie présente et sa vie passée, ainsi que ces vers qui déforment les objets qu'ils réfléchissent. Il brouille et gâte à l'image d'égoïste bien-être qu'il avait autrefois goûté et qu'il espérait goûter encore. L'aveu lui échappa, la femme manquait. Oh, Cyprien avait beau dire, l'on ne pouvait ainsi vivre seul. La crise juponnière qui éclata alors qu'André fut délivré de sa première stupeur et qu'il n'éprouva plus d'inquiétude, sollicitude pour le fonctionnement de son existence réorganisée et remise à neuf, fut mûrie et hâtée encore par les condoléances de Mélanie. Elle jugea en effet nécessaire de lui demander chaque fois qu'il recevait une lettre des nouvelles de sa femme. Au fond, elle redoutait que madame ne se portait mieux et ne revint prendre la direction du ménage. Il était probable que dans ce cas, elle réglerait les dépenses et congédierait le Serge Horneville que Mélanie avait amené à ses heures de libre dans le logis pour cirer les parquets, nettoyer les carreaux et fumer le tabac d'André. Mais, comme le nez de son maître pointait chaque fois qu'elle lui parlait de sa femme, Mélanie conclut que madame n'allait pas mieux, et retenant le nom de la maladie qu'André lui avait citée à tout hasard, elle consulta l'herboriste du Gros Caillou, qui fut d'avis que la patiente trépasserait un jour ou l'autre. Rassurée, Mélanie crut néanmoins de son devoir de continuer ses jérémiades, et après avoir activé la crise, elle contribua à l'aggraver. André s'amollissait maintenant dans une fainéantise, traversé de réveil et de rage lorsqu'il était chez lui, seul, mais à l'heure du dîner, un profond découragement succédait à ses colères. Il mangeait vite et sans faim, ainsi qu'un homme qui se dépêche d'accomplir une corvée. Les coups de timbre appelaient Mélanie, sonnaient à la file et avec une telle rapidité qu'elle demeurait béante, le cou gorgé de soupe, lorsqu'il réclamait le fromage et le dessert. Il songeait, le nez sur un livre, qu'il ne lisait point, et une fois le repas terminé, il emportait son volume avec lui et allait s'affaler sur un fauteuil dans son cabinet de travail. Les soirées qui s'allongeaient en clarté le désespérèrent. L'état aigu de la crise se déclarait. Le soir surtout, comme la fièvre qui reprendait le crépuscule, le malade fatigué par la vie du jour. C'était moins la hantise des spectacles lubriques qu'une appétence nerveuse, vague, qu'une rêverie confuse. Il désirait la femme non pour l'étreindre charnellement de son corps, mais pour le frôlement de sa jupe, la cliquette de son rire, le bruissement de sa voix, pour sa société, pour l'air enfin qu'elle dégage. Sans elle, son logement lui semblait maussade, incapable de tout travail, fatigué par toute lecture, opprimé par un accablement sans fin, torturé par les sourdes rébellions de la nature qui s'insurgeaient contre cette vie cloîtrée. Il regardait le jour tomber peu à peu, et il éprouvait dans cette détresse que verse la brume une triste et consolante pitié. Il sentait comme une sorte de doux appui qui lui venait. Des rêves de garçonnet, des fraîcheurs niaises de galopin, éclosaient dans ce navrement. Il avait eu, de même que bien d'autres, des idéales tués sous lui, et des souvenirs d'amour enfantine se réveillaient tout d'un coup chez ce sceptique. Une jeune fille, qu'il n'avait pourtant pas aimée, ainsi qu'il est convenu qu'on aime dans les romans, mais qui lui avait plu, qui avait été la première à le charmer au sortir du collège, l'obséda. Il se remémora avec une vivacité étonnante d'impressions, des journées à la campagne, des tête-à-tête, un peu en avant des parents soupçonneux, des rires étouffés, des bêtises de fleurs cueillies, toute une cour passionnée qui lui avait fait hausser les épaules plus tard, au moment où elle s'était mariée. Il se rappela plus nettement encore une certaine scène un soir. Tandis que la famille jouait à la bouillotte dans le salon, ils étaient allés se promener dans le parc sous des châtaigniers. Elle s'était assise sur un banc dans l'ombre et lui avait dit d'une voix changée « Assieds-toi là ». Et ils étaient restés sans souffle, elle chassant du bout du pied les écales sèches des châtaignes, lui, les mains tremblantes et le cœur battant, ne sachant s'il devait oser ou se taire. On les avait ramenés et la jeune fille avait été fortement grondée. La famille avait certainement cru à une intention d'accident qu'il n'avait pas eu pour sa part. L'évocation de cette scène était si exacte, si claire, qu'André ressentait le même frisson, la même gêne qu'au moment où elle s'était passée. Suivant cette filière de souvenirs, il supprimait d'un coup la brèche creusée par le mariage de cette jeune fille entre eux et il se figurait que l'ayant épousée, il coulait avec elle une existence de douceur et de paix. Puis revenu à lui, il se traitait d'imbécile et d'enfant, allumait la lampe qui dissipait avec sa clarté toutes ces rêveries flottantes et soudainement mises en émoi depuis près de 15 ans qu'elle sommeillait et semblait morte. Mais la gaieté de la lumière n'empêchait pas son esprit de songer encore. Si l'obscurité aidait à retrouver les souvenirs les plus lointains, la lumière les rajeunissait, les rendait plus rapprochés et plus précis. André, sautant même brusquement d'une époque à une autre, enjambait les années intermédiaires, les amours de hasard, et l'association des idées s'établissant forcément entre les deux seules filles honnêtes auxquelles il avait fait la cour, sa pensée s'arrêtait de nouveau à Berthe. Elle se levait maintenant devant lui et éloignait comme d'un geste tous les souvenirs qui voguaient et sombraient lentement dès son approche. C'était elle, elle seule, qui dominait. Il la fixait, la voyait telle qu'elle était, et à force de la fixer, il finissait même par ne plus la voir d'une façon distincte. Il y avait un moment où, positivement, il cherchait à se représenter son visage. Une nouvelle fureur l'animait contre elle et contre son amant. Puis quand la sensation s'émoussait par sa violence même, il était étreint par de lâches regrets. Oh, décidément, il eût mieux valu rester avec elle. Il n'aurait pas été en somme le premier à qui pareille aventure fût advenue. C'était un rôle ridicule, et bien après, c'était l'opinion du monde qui ne se préoccupait ni du caractère ni des besoins des individus et jauge avec la même verge toutes les espèces. Si c'était à recommencer, il se serait raisonné. Il aurait accepté l'association d'indulgence mutuelle si fréquente dans les marnages de Paris. Ils seraient demeurés bons amis, se pardonnant de mutuelles frasques, mettant chacun du sien pour se rendre l'existence paisible. Il ne serait pas réduit à vivre ainsi seul. Et il s'assoupissait dans des rêveries incohérentes où défilaient des cajoleries de femmes en quête de pardon et des soins d'honnêtes gardes malades, des rêveries souriantes et légères qu'interrompaient brusquement des pas montant l'escalier, des pas qui lui frappaient dans la poitrine et qu'il arrivait à prendre, mal réveillé, pour des pas de femme, pour les pas de Berthe. Ah, si elle avait l'idée de venir sonner à sa porte, le prétexte à inventer pour une visite était si facile, il lui pardonnerait. Une fois rentré chez lui, ça se ferait tout naturellement. L'on arriverait bien à s'accorder, à s'entendre. Puis il avait un soubresaut et, dégrisé, il s'injuriait et retombait dans ses pensées qui, détachées maintenant de l'image autour de laquelle elles gravitaient, divergeaient peu à peu, s'écartaient de Berthe et, tournant malgré tout dans le même cercle, revenaient à leur point de départ, à la femme. Il songeait alors à la période de sa vie restée jusqu'ici dans l'ombre. Il évoquait ses anciennes liaisons et invinciblement, il s'arrêtait à Jeanne, à une maîtresse qu'il avait possédée quelques années avant son mariage. C'était la première fois depuis longtemps que ce souvenir l'assaillait. Elle seule était demeurée dans un coin de sa cervelle comme une brave et curieuse fille, une petite ouvrière un peu incompréhensible, très corrompue ou très naïve, mais dans tous les cas attachée où elle broutait et tendre. Il s'était fâché pour une vétille, et fière et susceptible comme elle était, jamais plus depuis il ne l'avait revue. Son visage, où il se le rappelait à peine, autant la figure de la jeune fille avec laquelle il avait filé un amour chaste, se dressait devant ses yeux très net avec cette puissance de vision que prennent les souvenirs de l'extrême jeunesse, autant la physionomie de cette femme qui avait couché près de lui pendant des mois s'obscurcissait à mesure qu'il s'attachait à la mettre en pleine lumière. Il revoyait certains de ses traits, mais l'ensemble dansait. Vaguement au plus, il apercevait en se recueillant des yeux vifs et furteurs, une taille mince et souple, une tournure élégante dans une petite robe, un bout de nez retroussé sous des cheveux blonds, d'adorables bras, un pied filé, des mains mignonnes, une laideur agaçante et sournoise, mais quoi qu'elle fassait, quelque incomplète que fût l'image qui se présentait à lui, il sentait qu'entre mille dans la rue, il la reconnaîtrait. Soudain, dès que son esprit se fut arrêté sur Jeanne, il n'en bougea plus. Fatigué de songer à sa femme dont les grâces arrivaient par l'absence lui avaient paru plus charmantes qu'elles n'étaient en réalité et dont l'évocation lui laissait malgré tout de sourdes colères, il en arrivait fatalement à se raccrocher au souvenir de la seule maîtresse qu'il eût attirée, et le même phénomène se reproduisait. Il ne se remémorait plus que les qualités de Jeanne parvenaient à les trouver supérieures à celles de Berthe, moins idéalisées par une absence plus courte, et renversées d'ailleurs de son piédestal dès que la scène de leur rupture venait se poser comme un point ferme dans toutes ces fluctuations du rêve. Qu'était devenue cette fille ? Délicate et frêle, elle avait jadis l'inquiétante pâleur d'une parfumeuse. Elle était morte, sans doute, et subitement. Il fut pris d'un attendrissement puéril pour cette femme, qu'il n'avait, à proprement parler, jamais aimée. Il s'étonna de n'avoir point songé plus tôt à elle, et il se faisait ses réflexions que la vie est vraiment bizarre, qu'on a joint son existence à celle d'une autre, qu'on s'est tout raconté, tout dit, qu'on s'est ouvert l'un à l'autre, l'homme du moins, et puis, au bout de quelques années, l'oubli, qui a tout effacé, et que l'on n'a plus rien de commun ensemble. Oh, il eut presque les larmes aux yeux lorsqu'il se répéta que Jeanne devait être morte. Et se rappelant leur nuit blanche dans le même lit, il s'avouait qu'il eût mieux agi en concubinant avec elle, comme elle l'avait elle-même souhaité un jour. Il n'eût été ni plus malheureux ni plus cocu. Et mélancoliquement, il se disait « J'ai depuis longtemps atteint l'âge où les apparences d'affection suffisent. En admettant même qu'elle ne m'ait jamais aimé, si elle avait bien appris son rôle, ça m'aurait amplement satisfait. » Et ces soirs où les humeurs noires le désolaient, il se couchait de bonne heure, traînait devant ses bibliothèques à la recherche d'un livre, rentrant dans l'ordre des pensées qui l'agitaient. Il eût voulu en trouver un qui le consolât et renforçât en même temps son amertume, un qui raconta des ennuis plus grands et de la même nature pourtant que les siens, un qui le soulagea par comparaison. Bien entendu, il n'en découvrait pas. Il s'emparait alors d'un volume au hasard, s'étendait sur son lit et, incapable de comprendre ce qu'il lisait, il rêvassait encore, remâchait et ruminait ses embêtements, avait hâte de dormir pour oublier, et il restait poursuivi, même dans son sommeil, d'un indécis ennui qui le frappait, qui le faisait tressauter, et tout à coup, avec cette angoisse terrifiante de quelqu'un qui dégringole un escalier en rêve. Ces crises juponnières se rapprochaient de plus en plus fréquentes. Autrefois, elles le traquaient pendant un jour ou deux et disparaissaient durant des semaines entières. Aujourd'hui, elles s'éternisaient. Et lorsqu'elle paraissait avoir enfin quitté la place, elle surgissait de nouveau sous le plus futile prétexte de penser. André se demanda si la chasteté de ses sens devenus tardifs ne contribuait pas à le jeter dans ces phases de découragement et de tristesse. De même que ces malades abandonnés qui, devant l'annonce d'un médicament infaillible, se persuadent avant même d'en avoir usé et malgré les déboires qu'ils ont endurés déjà devant des réclames semblables, que celui-là est plus actif et que seul il aura la vertu de les remettre sur pied, André eut une minute de joie et se crut sauvé. Il voulut tâter de noces guérissantes, s'aiguiser l'essence par des souvenirs lascifs et à diverses reprises, il se livra par raison à de consciencieuses ribotes. Il obtint en effet une espèce de soulagement. Il rentrait chez lui brisé et dormait d'une traite. Le lendemain, il se sentait quelque lourdeur de tête, mais les jupes ne le tourmentaient plus. Ses désirs de tendresse demeuraient bien inassouvis, mais il criait moins haut dans la chair repue. André fut enchanté de son expérience, et il la renouvela jusqu'à plus soif. Alors les aspirations, un moment plus domptées, reparurent et s'imposèrent à nouveau plus vives. Il avait forcé la dose de ce calmant qui l'irritait, maintenant comme ces potions trop fortement opiacées dont les effets deviennent contraires à ceux qu'avait produit une quantité juste. Loin de l'égayer, ses amours au grand trot l'affligèrent. Ses ennuis devinrent même plus impérieux et plus aigus dans cette langueur de cerveau que laissent après eux les excès charnels. La comparaison s'établissait forcément entre Berthe, Jeanne et ces femelles qui, levant la chemise et la jupe d'un coup, pressaient l'extase, se dépêchaient de le renvoyer pour descendre dans la rue ou dans le salon, s'ingurgitaient des verres de vin ou de bière. Il ne trouvait chez elle l'apparence ni d'une sympathie ni d'une politesse, d'un plaisir quelconque encore moins. Des souvenirs de collégiens lui revenaient, des souvenirs bêtes à le faire pleurer. Il quittait le boulevard Bonne Nouvelle un soir et se faufilait dans une de ces rues infectes où les plombs en saillis sur les murs soufflent par tous les temps les odeurs vomitives des vieux choux-fleurs, et il s'avançait avec l'un de ses amis à petits pas dans ces sentes noires où deux becs de gaz clignotant à la hauteur des premiers étages éclairent de lueurs sales des rebords de fenêtres encombrés de pieds malades de Véronique et de giroflées, de peaux de moutarde pleines de persil et d'eau, de langes trempées, de blouses déteintes et séchant sur des cordes. Là, trois ou quatre femmes, tendant de gros ventres sous des robes mal attachées et trop courtes du devant, montrant des têtes barbarement enluminées aux joues, causaient entre elles, en rond, sous un réverbère. Le cœur défaillant, ils avaient écouté l'invite de ces raccrocheuses. Ils hésitaient, pris de peurs horribles, de honte subite, de défiance contre cet inconnu où ils entraient. Puis tous deux s'étaient fait violence. Ils avaient poliment offert, ainsi qu'à des dames, le bras, ses dondons, stupéfiés par ses belles manières. Les couples avaient ainsi traversé la rue, exhibant une fuite grotesque de dos étriqués, de jeunes hommes et d'épaules énormes de commères, qui marchaient en cabotant comme des cannes. Une fois isolés dans une pauvre chambre, mal éclairée par un bout de chandelle, devant un lit défait et une cuvette en permanence sur le carreau, une envie de se sauver avait empoigné André. Ses désirs de collège ne le chauffaient plus. L'acte brutal était là. La crainte de paraître enfantin et niais ajoutait encore à ses angoisses. Oh, il était heureusement tombé sur une brave femme que cette jeunesse avide et troublée intéressait. Elle eut pour lui une certaine bonne grâce, un accueil presque maternel. Elle lui vida sa petite bourse en faisant appel à son bon cœur, lui vola une bouteille d'eau de Cologne qu'il avait apportée par mesure d'hygiène, et avec de douces paroles et de gros baisers, avec des soupirs bruyants et des joies feintes, elle l'avait mis à l'aise et étourdi. Il descendit ainsi que son camarade de ce bouge dans la rue, pensant « Bon, c'est donc que cela ?» S'évertua malgré tout à se monter la tête, à s'imaginer qu'ils avaient épuisé des ivresses ardentes. Et par bravade, chacun amplifiait le récit de son allégresse. Il regardait les passants avec plus de fierté maintenant. Ils étaient des hommes. Ils affectaient des allures de mauvais sujets, auraient voulu crier leur aventure à tous les gens de la terre et rencontrer un ami, une connaissance, pour les mettre au courant de leurs hauts faits. Parfois, cependant, une appréhension terrible les tenaillait, celle d'avoir gagné un incurable mal, un mal à vous ravager le cuir chevelu et à vous manger le nez. Mais l'enthousiasme qu'ils entretenaient l'un l'autre et qu'ils chauffaient à mesure qu'ils menaçaient de refroidir les absorbaient encore. La désillusion n'apparut vraiment que lorsque, s'étant séparés, chacun était rentré s'étendre sur sa couchette. André songeait qu'à 30 ans sonnés, il était revenu à la passade de ses 18 ans. Après avoir roulé de toutes parts, il était revenu à ses débuts dans l'amour. Il payait plus cher, allait dans des cafés convenables au lieu de s'attabler dans des cabarets. Mais les consommations étaient les mêmes. Tout laissait un arrière-goût d'aigre, une soif nouvelle de douceur propre. La répugnance qui le prit accéléra encore sa hâte de posséder quelque chose de féminin qui simula un plaisir, une grâce. Ces pitresses de foire jouaient pas trop mal leur rôle. Elle ne le déridait plus, maintenant que devenu moins fringant et moins jeune, il perdait plus difficilement la tête au moment convenu. Sa femme, si froide, lui semblait passionnée à côté de ses histrions. mais ici, et plus vivement encore, le souvenir de son ancienne maîtresse, ses frémissements, ses pâmoisons lorsqu'il dodelinait entre ses bras, le hantèrent. Ah, le sang lui dansait pour de bon dans les veines à celle-là, et le cours de ses extases n'était pas réglé d'avance. Ne pouvant savoir si elle était vivante ou morte, il aspirait après une fille semblable, après une nouvelle maîtresse, puis il s'avouait qu'il n'était plus d'âge à séduire une femme. La pensée d'aller échanger de discrets signaux au travers des vitres d'une boutique de modiste ou de cordonnière, de se laisser rabrouer à la porte, de perdre son temps à de tels essais, la crainte d'être ridicule l'arrêtait. D'ailleurs, il n'avait que peu d'illusions sur ses charmes. Il savait ne pas avoir ce je ne sais quoi qui fait qu'un homme même infirme et laid enjôle immédiatement une femme. Il connaissait assez la vie pour ne pas ignorer que l'intelligence, que la distinction ne sont que de maigres atouts auprès des filles qui se toquent du plus affreux goujat, parce qu'il a l'œil poli ou féroce, qui s'en enamoure jusqu'à la folie pour des motifs qu'elles ne parviennent pas à démêler elles-mêmes. Sa timidité s'accroissait, du reste, à mesure qu'il réfléchissait aux difficultés de l'entreprise. Il avait assez pourtant des rôdeuses payées, il voulait s'adresser maintenant à des fillettes qui gagnent leur pain d'une façon ou autre, aux ouvrières qui choisissent un amant et ne lui sont infidèles que par boutade, selon les époques des termes ou les rencontres qu'elles font au sortir de leur magasin. Alors que, se trouvant vers 8 heures du soir, par hasard, ou par suite d'une course, sur la place du Carrousel, il voyait les petits trottins échappés de leurs ateliers, regagner deux à deux les quartiers de la rive gauche, riant et marchant bon pas, il les suivait tristement de l'œil. La blondine, celle qui était à droite et qui tricotait si joliment des jambes, eut bien fait son affaire. Elle avait la mine douce et semblait disposée à rire. Il est vrai que ces saintes litouches sont pires que les autres et que ce sont elles qui daubent et poivrent le plus congrûment un homme. Il s'asseyait parfois sur les bancs de pierre du pavillon de Turgot et là, sans s'occuper de ses voisins, des ouvriers en train de lire le journal et de dormir, des placiers de commerce se reposant et s'essuyant le front près de leur boîte, des personnes enlevant des bottines qui leur gonflent les pieds, ou bien les vieux ménages humant le serin, le mari les deux mains appuyées sur une canne, et la femme tenant un panier sur ses genoux, il regardait couler la foule, filer les voitures de maître et les fiacres, brandiller les charrettes de louage, pleines de meubles tirés à la bricole par devant et poussés à bras par derrière. Et il se répétait que parmi tous ces gens qui se croisaient, se pressaient à cette heure, beaucoup se rendaient sans doute auprès d'une femme. Toutes, si laides et si mal bâties qu'elles soient, ont un homme qu'elles satisfont et bichonnent tout en le trompant, pensait-il aussi, en assistant au froufrou des jupes. Les fillettes en tablier courant en avant de leur mère, les cheveux blonds retroussés sur le front par un peigne et tombant sur le cou en gerbe, les mains poudreuses et les joues barbouillées de récentes larmes, l'aidaient même à rêver. Il voyait dans ces morveuses qui s'affirmeront avec l'âge la souffrance future des mômes qui grandiront pour devenir à mesure plus bêtes. Complètement abattus, les mains posées à plat sur les cuisses écroisées, il contemplait le merveilleux et terrible ciel qui s'étendait au soleil couchant, par-delà les feuillages noirs des Tuileries. Il contemplait les taches crues des bâtiments neufs, le petit arc de triomphe découpé, pomponné comme un théâtre de marionnettes, et presque collé ce soir-là, sans perspective et sans air autour, contre les ruines dont les masses violettes se dressaient, trouées, sur les flammes cramoisies des nuages. Puis son regard descendait et, vaguant autour de lui, se fixaient sur les malheureux soldats en sentinelle. Il suivait son pas égal le long du Louvre. Est-ce que ce lignard ne possédait pas une payse, une fille quelconque, qui lui lassait les bras autour du corps, lui versait la régalade de gros baisers sur le cou, ou lui offrait par amitié la moustache sur un lit de sangle ou dans le coin d'une cuisine? Il devait être bien heureux, celui-là. On l'attendait au moins quand il était libre. Puis André haussait les épaules, s'avouait stupide, car enfin mieux valait crever que de mener la déplorable vie de ce pauvre diable. Ces soirs-là, il finissait par se traîner jusque chez lui, avec cette sorte d'hébétude des gens qui, après avoir pleuré pendant des heures, s'engourdissent dans une torpeur presque douce. Une fois couché, par exemple, sa blessure lui travaillait encore. Il repartait de plus belle dans ses rêves navrés. Il enviait, en dernier ressort, ceux qui, gorgés d'une femme, ne savent comment se soustraire à ses caresses. Jamais femme ne l'avait poursuivi. Il en était à connaître encore le supplice de ce qu'on nomme vulgairement un crampon. Toujours il avait été lâché, le premier, jamais il n'avait su s'attacher à une maîtresse. Après s'être applaudi de n'avoir jamais connu de tels embarras, après avoir même blagué des camarades qui étaient relancés par leurs amoureuses, maintenant il les jalousait. Dans ses moments de lucidité, il cherchait un remède qui jugula la maladie dont il souffrait. Le seul qu'il imaginait, séduire une fillette presque sage, lui paraissait impossible. Il était forcément obligé d'aspirer, comme jadis, après une fille qui lui appartiendrait en commun avec beaucoup d'autres. Il aurait son jour et elle le recevrait bien, sachant qu'il était une pratique régulière et qu'il prenait poliment livraison des plaisirs qu'il venait acheter. Persuadé enfin que la possession d'une femme à soi seule à Paris était chose impraticable, il se décida à adopter cette combinaison, tentant de se convaincre avec force arguments à l'appui que s'il avait eu l'aversion des roulures, c'était simplement parce qu'au lieu d'aller toujours chez la même, il en visitait chaque fois une différente. Mais ici, il fallait tout attendre de la chance. Il pouvait vagabonder au travers de cabinets de toilette et d'alcôves pendant des mois avant que de mettre la main sur une femme avenante et qui simulerait convenablement les géries de la bonne fille. Il chercha et ne découvrit que de mélancoliques farceuses et prises de marloupiers qu'elle s'empressait dès qu'il avait le dos tourné d'aller rejoindre. Dans cette débâcle, le souvenir de Berthe s'implanta à nouveau encore, mais le cortège des rancunes et des colères qui l'accompagnaient disparut. André avait perdu toute fermeté, tout ressort. Désespéré, il souhaita de revoir sa femme. Il erra dans les rues avoisinant la demeure des deux Hablot. Il ne rencontra ni les uns ni les autres. Il finit par apprendre indirectement qu'ils étaient tous partis pour la campagne. Cyprien le remontait de temps à autre. Il comprenait le silence de son ami qui se taisait sur ses défaillances. Quelquefois, ils passaient la soirée ensemble, et là, tandis qu'ils fumaient des pipes sans deviser, le peintre s'ingéniait à secouer la pesante inertie d'André. « Tu as tort, lui dit-il un jour, de te laisser aller à la dérive. Prends garde. Tu vas espérer des malheurs de femme pour les soulager. Tu vas rêver d'invraisemblable discrétion de ta part et de non moins invraisemblable reconnaissance de la part de la personne que tu obligeras pour coucher ensuite avec. Allons, voyons, il faudrait pourtant pas déraisonner de la sorte. Et puis quoi? Tu le sais pourtant bien, si t'amarrais pour de bon une femme, elle te mettrait l'âme à vif, elle t'écorcherait tout en ayant l'air de te panser. C'est ainsi que les transports, le rapport entre la femme et l'homme ont été réglés par la Providence. Je ne dis pas que cela soit bien, mais c'est comme ça. Et ces soirs-là, Cyprien invitait son ami à déambuler, il entraînait dans de formidables courses, s'appliquait à l'éreinter de son mieux pour le faire dormir.